Sam Travail, la chronique où le travail se raconte et se comprend.
Et si votre boulot racontait l'histoire d'un monde qui change ? Bienvenue dans la chronique de Sam Travail, un espace où les récits des travailleurs et des travailleuses deviennent des miroirs de nos mutations collectives. Pendant 15 minutes, deux fois par mois, on entre dans le vécu du travail. Je vous livre des récits que j'ai collectés, un peu de théorie pour éclairer tout ça, et je vous propose d'écouter, de comprendre, et peut-être parfois de vous reconnaître dans ces histoires où le quotidien du travail croise les grandes transformations de notre époque. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler de Nadia. Pour rappel, elle est psychologue et elle nous parle de son expérience de quelques mois à l'Organisme français de l'immigration et de l'intégration, où elle traitait les demandes d'allocation des réfugiés d'Ukraine. Nadia découvre petit à petit les incohérences du système et comment c'est elle, en première ligne, qui va devoir y faire face. Elle m'explique par exemple que l'allocation journalière est de 6,80 € pour une personne et de 10,20 € pour une famille de deux personnes. Cette somme est versée sur une carte qui ne permet pas de faire des retraits, uniquement des paiements, et il est remis une seule carte par famille, même s'il y a des enfants majeurs. Elle me raconte. Un jour, j'ai un jeune de 28 ans qui vient me voir au guichet et il me dit « Mais 6,80 € pour une personne et 10,20 € pour deux personnes, c'est pas logique. Et toi, tu te retrouves à appliquer des règles qui n'ont aucune logique. Tu sais qu'il n'y a aucune logique. D'abord, c'est pas rationnel et ensuite, humainement, c'est dégueulasse. Et toi, tu dois t'arranger avec ça. » Le jeune lui demande s'il va avoir une carte pour lui. Elle lui explique qu'il n'y a qu'une seule carte par famille. « Mais moi, si vous ne me donnez pas une carte, mon allocation, elle sera sur la carte de ma mère et j'aurai rien. » Et là, je ne savais pas. Et je me dis « Mais qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, je lui ai donné une carte. Et après, ça m'a mis mal parce que je me suis dit « Mais alors, pourquoi tu l'as fait pour lui et pourquoi tu ne l'as pas fait pour d'autres ?» En fait, au départ, j'étais tellement dans le brouillard que j'appliquais les règles sans réfléchir. Mais en même temps, il y a aussi un moment où tu finis par appliquer les règles parce que tu ne veux plus réfléchir. Parce que, en fait, si tu réfléchis, tu pètes un câble. Parce qu'en fait, c'est insoluble. Nadia décrit très bien les étapes du processus. Au début, elle est dans le brouillard, donc elle applique les règles. Puis au bout d'un mois, elle commence à sortir un peu du brouillard, à voir les incohérences, notamment quand elle est interpellée par une personne accompagnée. Elle se pose alors la question d'appliquer ou non les règles. Et commence ainsi un questionnement incessant. Elle va osciller entre écart à la règle pour faire ce qui lui semble juste, puis remise en question de ce qui lui a semblé juste sur le moment, et retour à une application stricte des règles pour ne plus penser. Une boucle sans fin. Elle m'explique que sa marge de manœuvre est très faible parce qu'il y a des contrôles ensuite sur les dossiers. Elle me parle aussi du fait que les dossiers sont mutualisés, c'est-à-dire que l'ensemble des salariés peuvent intervenir dessus, ce qui rend plus difficile ces arrangements. Alors elle commence à garder des dossiers sous le coude, qu'elle suit de A à Z, pour être plus tranquille.
Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Lina mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol, nesse mundo fora, só bate mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol, nesse mundo fora, sorotima, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná, oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim.
Lorsque j'écoute Nadia, me vient l'image de la tragédie d'Antigone, qui va défendre que rien, surtout pas les lois d'un humain, n'est supérieur aux lois immuables. Du point de vue du travail, on appelle ça un conflit de valeurs. Et le conflit de valeurs est reconnu comme faisant partie des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, ou les RPS, de quoi on parle ? Depuis assez longtemps, la relation entre la pénibilité physique du travail et la santé a été démontrée et reconnue. Par exemple, les conséquences sur la santé du port de charges lourdes ou de l'exposition à des produits chimiques. Il a fallu attendre plus longtemps pour que le lien entre organisation du travail et santé soit établi. C'est chose faite avec la notion de risques psychosociaux. En 2011, un rapport d'experts dirigé par Michel Golac va présenter les 6 familles de risques psychosociaux. Et le conflit de valeurs est une de ces familles. Pourquoi ? Eh bien, comme le travail occupe une place importante dans la façon dont on donne un sens à notre existence, il en résulte une vulnérabilité quand le travail ne permet plus de construire ce sens. De nombreux médecins du travail ont décrit les effets sur la santé mentale liés à l'obligation de travailler d'une manière qui heurte notre conscience professionnelle. Au sein de cette catégorie des conflits de valeurs, les experts distinguent 3 types de situations. La qualité empêchée, le travail inutile et les conflits éthiques, comme dans le témoignage de Nadia. Le rapport souligne que des conflits éthiques apparaissent assez fréquemment quand une organisation adopte des pratiques et des valeurs qui lui étaient jusque-là étrangers. Il précise que cela a notamment été décrit dans des administrations ou d'autres organisations publiques qui se réorientent vers une gestion plus marchande. Le rapport fait clairement référence, sans le citer, au suicide de France Télécom, qui ont conduit à cette reconnaissance des risques psychosociaux. La DARES, Direction de la Recherche des Études et des Statistiques, a publié en 2021 une étude selon laquelle 61% des actifs occupés déclarent être exposés à des conflits de valeurs dans leur travail. C'est-à-dire qu'ils estiment devoir faire, toujours, souvent ou parfois, des choses qu'ils désapprouvent. Et ces personnes déclarent plus fréquemment que les autres une santé physique et mentale dégradée. Michel Vézina et Louise Saint-Arnaud, deux chercheurs québécois en santé au travail, ont réalisé une étude sur des salariés ayant un emploi émotionnellement exigeant. Cette étude montre plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a des liens entre travail émotionnellement exigeant et santé mentale. Et la deuxième, c'est que le risque de développer une détresse psychologique ou des symptômes dépressifs est 4 fois plus élevé chez ces travailleurs quand ils n'ont pas de marge de manœuvre dans l'interprétation et l'application des consignes qu'ils ont reçues, ou encore quand ils ne bénéficient pas d'un soutien social suffisant. On l'a vu dans la chronique précédente, Nadia nous raconte qu'elle n'a pas de marge de manœuvre, avec par exemple le logiciel qui va contraindre sa pratique. Mais aussi que les salariés ne reçoivent aucun soutien quand ils sont confrontés à des situations émotionnellement lourdes.
Your face, oh baby, I'm thinking about with your body, thinking about with your face. If you remember, oh baby, I'm thinking about with your body. Home. Oh, baby, I'm thinking about your face. No, oh, baby, I'm thinking about your body, thinking about your face. But booty, you're me, oh,
on bidouille tout le temps, et ça c'est difficile. C'est une phrase qui revient à plusieurs reprises dans l'entretien avec Nadia. Je lui demande si ces bidouillages qui la travaillent sont discutés entre collègues. En fait, on n'avait jamais de temps ensemble, jamais. Et puis moi, assez rapidement, je me suis isolée, parce qu'on était dans cet open space où on était au minimum 8, donc ça veut dire qu'il y avait des téléphones qui sonnaient, des conversations de partout, et moi, j'y arrivais pas. Mise à mal par ses locaux, Nadia finit par trouver au troisième étage un bureau où elle est seule, ce qui lui permet de mieux se concentrer pour faire son travail. Par contre, ça l'isole. Elle a de moins en moins d'échanges avec les autres. Elle m'explique aussi que la machine à café et la salle déjeuner étaient à côté des bureaux de la directrice. Ces temps informels avaient donc toujours lieu sous l'œil de l'encadrement. Les difficultés vécues par Nadia sont renforcées par cette absence de collectif. La sociologue Marianne Dujarrier nous explique ainsi que travailler avec et sur autrui, ça contient inévitablement une dimension éthique. Et les arrangements qu'on va réaliser au cours du travail, s'ils peuvent faire l'objet d'un partage et d'un débat avec les collègues, ils sont alors des ressources pour le travail. Ils vont permettre de construire des normes communes. À l'inverse, si ce n'est pas partagé, ces contradictions relationnelles dans le travail vont devenir des charges morales individuelles. Je la cite, « Avoir à faire dans la solitude des arbitrages complexes et nécessairement boiteux induit un sentiment d'insuffisance. » Le premier mois, j'en rêvais toutes les nuits. Toutes les nuits, je rêvais de ce travail. Là, je me suis dit « Non, il y a quelque chose qui ne va pas. » Tellement tout était confus, plus rien n'était clair, j'étais en plein brouillard. Certainement que ce qui revenait aussi, c'était toutes ces questions éthiques dont je ne me sortais pas. À un moment donné, t'as le choix. Soit tu mets un mécanisme de défense en place et tu réfléchis plus, parce que sinon tu vas sombrer. Ou alors tu t'en vas, si tu peux. Ou alors tu supportes. Nadia évoque quelques collègues minoritaires qui supportent, pour qui ce qui prime, c'est avoir un travail et de pouvoir payer son loyer. Nadia, elle va finir par partir, comme nombreux de ses prédécesseurs. Pour conclure cet entretien, je lui demande ce que cette expérience a laissé en elle. Tu vois, je trouve que j'en parle encore avec beaucoup d'agitation. Je crois pas que ce soit de la colère. Peut-être un peu. Mais j'en parle de vive voix. Je sens intérieurement que ça bouillonne. C'est intéressant parce que je me dis que ça fait quand même un an et que c'est encore présent. Ça a été 6 mois assez épuisant. Je pense que peut-être dans le fond, je n'en ai pas trop parlé parce que j'ai eu besoin de le mettre de côté un temps. Et ça m'est resté à l'esprit. Je me dis que j'aurais dû prendre rendez-vous avec la directrice et lui déposer tout ça. Pas mon vécu, mais dire les dysfonctionnements. Pour conclure cette chronique, juste un rappel. La principale des ressources, elle s'appelle le collectif. Alors, choisissez celui que vous souhaitez. Ayez-en même plusieurs. Ça peut être vos collègues les plus proches, un syndicat, des personnes que vous avez rencontrées dans une formation. Et prenez soin de vos collectifs. Parce que c'est une ressource fragile et qui est souvent mise à mal. Si vous aussi, vous avez envie de confier à l'association SAM Travail un épisode de votre vécu professionnel, écrivez-nous à contact@frequence7.net. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique et d'ici là, ne vous laissez pas trop travailler par le travail.